flûte. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Camille André, Raphaël Mantoux. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Meige, réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Mathilde Serrel, Philippe Azoury, Olivier Lame pour parler ensemble de Face B 1965-1981 de Pierre Vassiliou chez Born Bad. On enchaîne presque 1980-1986 avec la Contraola, Synthwave et Post-Punk from Spain chez Bongo Joe. Puis on arrive à 2018 tranquillement avec Little Dark Age de MGMT chez Columbia. Boris Pinault, lui, surveille au présent les fils Twitter et Facebook de la dispute pour donner à entendre vos commentaires sur les 10 dont nous parlons ce soir. Et puis, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour voir l'un des 17 films de la rétrospective Jacques Prévert. Prévert fait son cinéma à partir de demain dans les salles. Nous ouvrons cette émission avec un tour de table et un peu plus consacré à Didier Lockwood, dont on a appris dimanche soir la disparition à l'âge de 62 ans. Il avait suivi une formation de violon classique qu'il préfère intégrer en 74 brièvement le groupe Magma. Il avait 17 ans à ce moment-là. Il volera ensuite de ses propres ailes en multipliant les collaborations, les explorations musicales. Il avait aussi à cœur de transmettre sa passion, ce qu'il fera notamment en ouvrant une école à Damary-les-Lys. Il avait reçu une victoire de la musique en 85 et nous l'avions reçu dans cette émission en tant qu'invité de la dispute. C'était en décembre 2014. Voici un extrait de cette semaine en sa compagnie.
C'est l'aventure. Ça doit être l'aventure. Si c'est plus une aventure, c'est une répétition des choses. Et vouloir répéter pour essayer de faire quelque chose, c'est une ineptie puisque jamais rien ne peut être répété. Ce qu'on vient de faire à un moment donné, même si on veut le restituer, ça ne sera jamais la même chose. Et chacun son point de vue, puisque personne d'autre que moi ne verra à ma place et ne vivra ce que j'ai pu vivre à ma place. Donc nous avons tous une position unique dans ce monde. C'est pour ça que la présence de chacun ici sur cette terre est essentielle, puisqu'elle est unique. Et chacun, du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, du plus gros au plus maigre, on a cette tâche de devoir vivre quelque chose pour autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le compte d'autre chose. Mais en tout cas, on est obligé de vivre quelque chose qui nous sera unique. Et donc, chacun est un maillon extrêmement aussi important, voilà, que l'autre. Ça, c'est le postulat de départ. Après, voilà, apprendre à se perdre pour mieux se retrouver. Se perdre, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'échapper au lieu commun. Ce qui nous fait le plus de mal en tant qu'artiste, c'est la peur. La peur de ne plus être reconnu dans le regard des autres. La peur que ce miroir de popularité qu'on peut dresser, ou de célébrité qu'on dresse autour de nous, eh bien, s'effrite en une infinité de pièces. En tout cas, autour de moi, je repère les artistes qui ont. Et c'est très difficile de trouver une artiste qui est en symbiose, dans cette symbiose avec son esprit et son corps. Il ne faut pas extraire la musique du corps, ce qu'on fait depuis pas mal de temps maintenant, puisque la musique, c'est avant tout le corps qui va l'étayer. Hein. Je parle souvent du rythme, parce que je pense que le rythme en musique, et c'est comme le rythme en peinture, en l'art plastique, ou le rythme dans l'écriture, ou le rythme dans un film, par exemple. Donc c'est aussi un élément extrêmement commun, et ce rythme ne peut se faire que par une alliance extrêmement proche, serrée, et aimante entre le corps et l'esprit. We'll be right back.
Olivier Lockwood, un extrait de ses entretiens qu'il nous avait donné il y a un peu plus de 3 ans dans la dispute, et puis évidemment un peu de magma qu'on entend, époque Lockwood. Olivier Lam, vous avez co-signé avec deux camarades, double page dans Libération ce jour, avec Guillaume Thion et...
Eve Beauvallet.
Et Eve Beauvallet, bien sûr. Didier Lockwood pour vous ?
Musique extrême, si l'on est. non, j'ai un faible depuis l'adolescence pour un certain jazz rock, on va dire. Weather Report, Mahavishnu Orchestra, toutes ces choses-là. Et même, je pense que même au plus haut de ma passion pour cette musique extrême, toutes les sorties du label JMS, en fait, dont label français qui a sorti notamment les premiers disques en solo et de Didier Lockwood et beaucoup de ses projets, et aussi ceux d'un groupe canadien qui s'appelle Uzeb. Pour moi, ça me paraissait presque trop extrême, en fait, dans une espèce de la quantité, le nombre
Quelle
de notes.
Quelle phrase, Olivier Lam, quelque chose qui vous paraît trop extrême.
Bah, c'est-à-dire que la quantité en comment dire, en choses douteuses et en nombre de notes est assez vertigineuse en même temps. Donc je me suis, ça m'a toujours beaucoup interpellé. Pourquoi cette musique-là finalement était si populaire, en fait, y compris auprès des gens qui sont assez pomélomanes. Je pense qu'il y a quand même une vitesse, hein, une énergie, quelque chose dans cette musique, et notamment celle de Didier Lockwood, et aussi dans ce qu'il a fait d'un peu plus, on va dire, dans un jazz un peu plus classique, avec tout l'héritage de Stéphane Grappelli, quelque chose qui parle, je pense, très 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 directement au cœur des mélomanes français, ou des gens qui aiment la musique en France. C'est dans les veines, et y compris son rapport à la musique classique, qui est moins kitsch qu'il n'y paraît. Enfin, il y a eu des hauts et des bas, hein, il y a des choses.
Voilà, des beaux enregistrements classiques, hein.
Mais même des compositions.
Compositions.
La mouette. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup étonné, en fait, en écoutant. J'ai découvert ça, hier. En travaillant sur l'article, mais enfin voilà, il y a des choses vraiment assez ahurissantes de kitsch, voilà, comme ce duo avec son ancienne femme qui s'appelle la diva, le rap de la diva. Ça vraiment, je conseille aux gens d'aller faire un tour sur YouTube. Et des choses aussi plus voilà, un mélange de grâce et de j'ai pas utilisé le mot, donc voilà, des choses plus difficiles, extrêmes, voilà.
Mathilde Serrel, Didier Lockwood et vous.
Didier Lockwood et moi, il y a des choses que j'ai pas pu dire lundi. Je vais consacrer un billet dans les matins de France Culture. Jazz porte ouverte, c'était une allusion à son dernier album qui s'appelle Open Doors. Ça faisait 9 ans qu'il n'en est pas sorti, hein, quand il est paru en novembre là 2017.
Alors tout ce que vous n'avez pas pu dire dans les matins, dispute.
Voilà, d'abord, voilà, ce que j'ai dit dans les matins, c'est cette ouverture à la fois à toutes les vibrations jazzistiques, cette ouverture de laisser la porte ouverte derrière soi, de faire monter tous les jeunes talents à Marcillac, de transmettre ses secrets d'improvisation, de faire ce pari fou, que ce qu'on a évidemment d'unique en soi dans son approche musicale, c'est quelque chose qu'on peut transmettre, en tout cas trouver une clé pour que l'élève en face puisse apprendre à le trouver. Et c'est ce que m'a dit entre autres Mathias Lévy, qui est un des violonistes qui a été ses élèves. Et puis voilà, ouverte, parce que une conception même de la vie, il y a presque une philosophie Lockwood, ouverte dans le questionnement, dans le doute, ne jamais être sûr de soi. Alors c'est marrant, il parlait de la peur, surtout ne pas avoir peur. C'est ça qui va vous immobiliser un artiste et en même temps cultiver le doute. Et il en parlait donc dans un roman, parce qu'il a aussi écrit un roman qui s'appelle Question d'âme. Ce que j'ai pas pu dire, c'est que c'était un extrêmement bon vivant. Enfin, quand il dit ça passe par le corps, c'est la chair. Et dans tous les témoignages, on va dire informels, que j'ai récoltés dimanche soir, quand je passais des coups de fil, quand on a appris il y a un reportage en ce moment dans le Boxon. Je vois ce site internet qui fait des reportages sonores de Pascal Clark sur les nécros qui sont prêtes dans les radios. Bah là, pour le coup, ça a de Lockwood, non. Et c'est extrêmement brutal. À 62 ans, du coup, j'appelle et autour de moi, j'ai que des retours de ce type incroyable, de ce type généreux. Alors un coup, c'est le bon gars. Un coup, c'est le type du Nord qui aimait le foot, le camarade, le type qui aime les femmes, qui aime. Apparemment, il avait une devise qui était les 3 B, la bonne musique, la bonne bouffe et la bonne baise. Voilà. Donc moi, j'ai découvert ce Lockwood-là.
Et le bistouri.
Bon, non. Philippe Azoré, Lockwood.
Non, j'écoutais dimanche, c'était lundi, sur une des chaînes de Radio France, une archive Lockwood, où il se faisait la remarque qu'il avait été obligé lui-même de créer une classe de violon de jazz, parce que ça n'existait pas en France, alors que le violon de jazz est une spécificité absolument française. Alors évidemment, c'est Grappelli, qui fut son maître et on lui se reconnaît. Il y a l'anti-Grappelli, enfin celui qui ne se reconnaît pas dans Grappelli ou qui ne reconnaît pas l'héritage de Grappelli, qui est Jean-Luc Ponty. Et c'est vrai que c'est que le coup des Ponty, enfin en tout cas Magma, période Le Coude ou Faton Cahen ou Jean-Luc Ponty, c'est pour les gens de ma génération qui étaient du coup trop jeunes pour Magma et qui sont effectivement, comme disait Olivier, c'est-à-dire passés par une version télévisée de Le Coude dont on ne savait pas trop quoi faire et qui ne nous intéressait pas beaucoup, c'est étrangement des gens, notamment quand on interviewait des gens comme Carl Craig, Jean Venu de la Techno de Détroit, qui d'un coup nous disaient avec un accent américain Magma, Didier Le Coude, ou des Anglais comme Giles Peterson, qui faisait Jean-Luc Ponty. Et donc on se demandait si on avait bien entendu, on aurait repassé la bande et puis on a commencé à s'intéresser effectivement dans l'un comme dans l'autre, il y a des choses, il faut trier, mais il y a des choses incroyables. Et évidemment, enfin, mourir à 62 ans, juste après un concert, c'est beaucoup trop jeune. Enfin, ça laisse un héritage inachevé.
Voilà pour cet hommage et ce salut à Didier Le Coude. Et on va revenir à présent au programme prévu de notre émission musique, mais avec un autre musicien français disparu il y a plus longtemps, celui-là, puisqu'il était né en 1937 en banlieue parisienne, mort en 2014 à 7. Je vais parler de Pierre Vassiliou, qui reste pour les plus de 50 ans. Celui qui chantait « Qui c'est celui-là » classé numéro 1 hit parade en 1973. Il avait débuté sa carrière dans les cabarets parisiens à la fin des années 50, après avoir été apprenti jockey, ce qui nous renseigne au passage sur sa taille. Il était passé par le Petit Conservatoire de Mireille, il avait sorti un premier 45 tours en 62, il avait fait la première partie des Beatles à l'Olympia en 64. Chez Barclay, son talent indolent va s'épanouir, mais non sans difficulté. La suite de sa vie, on va sans doute l'évoquer, se lit comme un roman. Compliqué le roman, mais on va y revenir sans doute dans nos commentaires. Pour parler de la sortie de l'album Pierre Vassiliou, face B, 1965-1980 chez Born Bad Records. Et oui, donc Philippe Azoré et moi sommes obligés de choisir le titre que nous allons écouter à présent, En Vadrouille à Montpellier, notre ville, même s'il faut éloigner sans doute les enfants du poste.
Sur la piste glacée de la boîte de nuit à Montpellier, petite blondinette avec qui je danse, quel âge peux-tu avoir? 16 ans, 17 ans. Tes seins sont déjà lourds, mais aussi déjà durs contre moi. Tu te colles, tu provoques, mon sexe devient dur. Il danse avec le tien, il l'enlace, il l'embrasse, il le presse. Et dans le noir super de cette boîte de nuit, ta main se pose alors sans chercher à l'endroit le plus dur, et Tu pleures. Je nous regarde et souris gentiment. Je cherche comme un malade les clés de l'appartement. Je finis mon cognac. Nous traversons la salle. Voilà que je vois double. Les odeurs de ton corps volent au-dessus des tables et tes jambes miroitent sur la piste glacée. Sur mon grand cheval noir qui nous conduit au pas, ta jupe est retroussée et tes cuisses bronzées éclatent sous mes mains. Le vent prend la musique qui tourne dans tes cheveux. On arrive chez moi. Tu m'écrases le bras, tu entres dans la chambre et tu te déshabilles. Tu m'attrapes, tu m'agrippes et tu m'enfonces en toi. Tu me veux tout entier. Tu me manges, tu me bois, tu me pleures et tu ris et tu cries et tu jouis. 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 Est-ce que c'est bien raisonnable que ça?
Les 3B en musique. Philippe Azoury.
C'était quoi? Bouffe, boisson, basse.
Basse. Quelle ligne de basse?
Quelle ligne de basse?
Pierre Vassiliou. Phase B, ouais. 65-80 chez Born Band Records.
Très très bon titre d'ailleurs de compilation, puisqu'il faut bien partir de quelque chose d'un seul point. Face B, face sombre, ou face inattendue, parce qu'évidemment, enfin, dans l'inconscient collectif, vous l'avez dit Arnaud, Vassilius, c'est la reprise en 73 d'un titre de Chico Buarque, qui c'est celui-là. C'est le rigolo, ça peut-être les gens doivent le situer quelque part entre Roland Magdan et Coluche.
Carlos.
J'ai vécu, voilà. Et puis, déjà, depuis quand même une bonne décennie, effectivement, chez les gens qui étaient un peu des diggers, dans les blogs, des choses comme ça, ce morceau qu'on vient d'entendre, Vadrouille à Montpellier, sexuel, languide, très très sensuel comme ça, gainsbourgien,
ouais.
Jusqu'à la limite de la parodie, mais why not?
Ou de l'hommage.
Voilà, ou de l'hommage, la révérence, en tout cas, voilà, ça avait remonté, et quand même, voilà, chez des gens un peu spécialisés, dont effectivement Guido Cesarski, moitié de Acid Arabe, du duo Acid Arabe électronique, qui a fait cette compilation, qui a compilé ces titres, l'idée que Vassilius était vachement bien, mais le problème c'est que, évidemment, où on a l'âge de passer ces dimanches matins à faire toutes les puces du monde entier. Moi, ça m'a un peu passé, je l'avoue. Et de toute façon, on n'en trouvait pas beaucoup des Vassilus parce que ces albums se sont, pour ainsi dire, pas du tout vendus, sauf la compilation qui a entouré en 73 la sortie du tube. Et trouver des Vassilus, finalement, c'était un peu s'aventurer dans la zone vraiment très très sombre de la recherche. Donc plutôt heureux que Born Bad ait fait ce travail-là, et puis double plaisir parce que je dois avouer que depuis une semaine que j'écoute ce disque, ça, j'arrête pas. Enfin, j'avais plutôt de la sympathie pour l'homme, mais il y a quelque chose qui me prend. Enfin, là il y a ce titre qui est très impressionnant que Arnaud Florent Didier, je crois, a repris avec lui sur scène. Je sais plus vraiment.
Les deux.
Mais il y a le titre qui ouvre, qui est Une fille et trois garçons, que je trouve magnifique. Il y a un titre que je ne connaissais pas, qui devait être la face A de qui c'est celui-là, mais qui est devenu la face B. De toute façon, chaque fois qu'il a voulu faire un morceau en face A, ça s'est planté. Et c'est la face B, les rares fois où ça a un peu marché et la fois où ça a réellement marché, c'était la face B. Donc, d'où l'ironie du titre. C'est un morceau qui s'appelle Film, qui est un morceau donc de 73, puisque c'était censé être la face A de Qui c'est celui-là. C'est un morceau complètement dingue, puisque c'est pareil, c'est une sorte de spoken word, où il parle, et qui raconte une virée au Bois de Boulogne. Mmh. C'est le truc le plus... quand les chanteurs commencent à évoquer la sexualité, c'est réellement un révélateur. C'est-à-dire, soit on comprend que les types sont des salauds, soit il y a un truc qui touche. Et cette virée au Bois de Boulogne, donc on craint le pire. Enfin, on se dit, mais enfin, où est-ce que le type s'aventure? Et puis, au début, voilà, c'est un peu sur le mot de ricaneur, enfin, voilà, sur les Espagnols, et tout ça va pas très très loin, c'est pas très brillant. Et puis, d'un coup, il y a une sorte de flash amoureux, et à la fin, le morceau vous arrache des larmes. On dit même que je pense Daniel Darc aurait à peu près pari de Taxi Girl, ça vient de là. Ouais, ça vient de là, en fait, le phrasé sur film. Et voilà, en tout cas, toute une série comme ça de morceaux, je pense que vraiment, l'album qui doit en compter quasiment une quinzaine ou peut-être un peu plus. Mais c'est un pan qui s'ouvre. Je trouve qu'il y a quelque chose dans les arrangements, notamment avec Bloch Lenné, qui rappelle la Brigitte Fontaine des débuts. Des choses comme Brigitte. Enfin, on est dans cet univers-là. Ça me touche énormément.
Alors, c'est vrai que Film, moi, j'avais complètement oublié ce morceau, mais que j'ai immédiatement reconnu, puisque je pense que ça va être mon grand frère qui avait dû acheter le 45 tours, qui c'est celui-là. Et je connaissais absolument très, très bien. Et fait Madeleine pour quand même beaucoup de gens qui ont acheté ce 45 tours de retrouver Film. Olivier Lam, Pierre Vassiliou.
Oui, c'est une compilation à chialer, franchement. Non, parce que c'est
difficile. Mal.
Non. À chialer. C'est très difficile de pas rentrer en empathie totale avec le type ou ses différents avatars. Il y a une cohérence, une continuité quand même d'un morceau à l'autre, autant dans les balades que ces longues errances discoïdes magnifiquement écrites et magnifiquement dites et parlées. Moi, le rapport avec Gainsbourg, je le vois pas tant que ça.
Dans les paroles et dans la rythmique de la parole
bien
de ce
sûr,
morceau.
Finalement, ça va à des endroits où Gainsbourg a jamais été de manière aussi explicite. Moi, Vassiliou, j'en entendais parler depuis des années, puisque on disait c'est le grand maître à penser de Catherine, de Philippe Catherine, surtout à partir des créatures, ce genre de disque. Et pour moi, Vassiliou, effectivement, c'était un visage, c'était une apparition à la télévision dans les années 80, soit qu'il était invité à venir chanter son tube dans des émissions où on faisait venir un chanteur pour un tube et qui venait le faire en playback
et en salopette.
Non mais je veux dire, là il venait c'est à l'époque où il habitait en Afrique et il venait entouré de danseuses africaines habillées n'importe comment et c'était la bande de 73 qui passait soit carrément dans les émissions de Stéphane Collaro, enfin moi le niveau d'embarras et j'avais dû entendre peut-être Film qui m'avait beaucoup impressionné, mais enfin je pensais pas à ce point-là rentrer dans la tête d'un artiste et être aussi autant touché. Honnêtement, tout est impeccable. Vraiment, j'aimerais un coffret intégral parce que là, en plus, du coup, je me suis un peu baladé sur Internet et essayé d'écouter d'autres choses. L'album de 76, là,
celui avec Georges Roddy, ça a l'air.
C'est magnifique, vraiment, dont extrait le morceau Sophie, c'est absolument à tomber. Et en plus, effectivement, il y a les contours d'une autobiographie qui se dessine derrière ça, puisqu'il met en scène sa vie. C'est vraiment merci Bornbad, c'est magnifique, c'est la plus belle compilation que j'ai entendue depuis longtemps.
Depuis longtemps. Mathilde Serrel.
Je suis d'accord, c'est à pleurer de bonheur et de chance de rentrer dans le cerveau d'un garçon sensible. C'est une autobiographie musicale un peu d'un garçon de la contre-culture avec ses rêves de sexualité libre, avec ses possibilités d'avenir contrariées, avec ses errances. Et de livrer ça finalement, effectivement, sous forme d'autobiographie musicale, c'est tout l'intérêt de la compilation parce que Guido Cesarski, il a fait un petit post Facebook pour annoncer la sortie de cette compilation qui portait vraiment depuis des années.
Depuis 8 ans, je crois.
Voilà, c'était son grand projet. Et tout d'un coup, il a fallu choisir. Situation absolument immonde de devoir choisir parmi les perles et les beautés qu'on redécouvre chez Vassiliou. Et finalement, ça a été ce jeu d'aller chercher ce narrateur, d'aller chercher justement la face B de la vie de Vassiliou qu'on connaît moins et sa face sensible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une chance de rentrer un peu dans sa chair, dans sa peau, dans son ressenti. Sur Gainsbourg, c'est juste peut-être, moi j'y vois quelque chose de la légèreté, de l'ironie dans les références qu'on peut croiser. Il faut se rappeler que Melody Nelson, ça sort en 71. Donc effectivement, tout ce qui est après, qui pourrait être vaguement gainsbourien ou ressembler aux arrangements de Vanier, pour être voilà un petit peu sous suspicion. Et en fait, je crois que vraiment, il en rigole notamment sur le titre Il était tard ce samedi soir, qui accompagne voilà qui est en 1974 et qui accompagne film. Moi, je crois qu'il y a une moquerie avec ce Tarzan, cette scène entre Tarzan, Cheetah et Jane. Je pense qu'il se moque justement de Gainsbourg et de ses récits. Et je trouve que c'est le rire qui éclate aussi, qu'on a entendu un petit peu tout à l'heure sur la virée Montpellier-Rennes, qui est l'avantage de cette compilation, parce que non seulement on entre dans sa vie, mais aussi on ne prend pas les choses tant au sérieux. C'est-à-dire que on n'est pas en train de faire un grand marbre à Massilu. Et je trouve que c'est ça qui est fin dans la sélection, c'est de le montrer dans ses faiblesses et dans l'humour qu'il a sur lui-même.
Il faut préciser que le texte de Guido Cesarski qui introduit le truc est absolument impeccable, parce que vraiment ce qu'il laisse deviner de lignes de vie, d'échecs, de sensibilité, y compris de découverte, on apprend qu'il a été photographe de guerre en Algérie, enfin au début de sa carrière, laisse vraiment effectivement ce que disait Olivier, enfin, on a envie d'un coup de l'intégrale. Enfin, on a envie de se plonger.
Mais il rencontre son fils d'ailleurs, Clovis, pour Aux alentours de la lune, qui est pour moi un des titres découvertes de cette compilation, parce que c'est un titre tardif des années 80.
C'est le même album de 76 en fait, de 74 dont on parlait. C'est l'album de Georges Rodi, Autour de la Lune.
Alentour de Lune. Ouais. Non, et est-ce qu'on peut voler?
Celui pour Clovis.
Et là, c'est peut-être un Vassilu qu'on connaissait moins, qu'on découvre, avec cette descente post-contre-culture.
J'ai l'impression surtout qu'on le connaissait pas, Vassilu. C'est pas qu'on le connaissait moins et qu'on découvre quelqu'un effectivement. On ne sait pas si c'est une mélancolie joyeuse ou une dépression totale. On ne sait pas si c'est l'humour du désespoir, enfin, ou si c'est une sorte d'indolence, parce qu'il a vécu en effet plusieurs vies. On se reportera effectivement au joli texte qui ouvre cette compilation. Puis on attend le deuxième volume, Face B Suite.
Oui, ou les albums, peut-être dans la version intégrale, je pense qu'ils y travaillent, c'est un peu compliqué avec Barclay, qui en plus, pourtant, était responsable un peu du drame de Vassilu, qui était que lui, il voulait sortir les morceaux sérieux et en lui, face A.
On voulait qu'il fasse du rigolo.
Et on voulait demander de...
Voilà. La martingale habituelle. Bon, précipitez-vous sur ce Face B 65-81 de Pierre Vassilu chez Born Bad, et à suivre dans la dispute, la Contraola et MGMT.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et suite de cette émission consacrée ce soir à la musique, et après Pierre Vassilu, une deuxième curiosité à notre sommaire avec la Contraola, compilation qui sort chez Bongo Joe, consacrée à la scène synthwave et post-punk espagnole du début des années 80, 19 morceaux. Qui nous montre un peu de cet élan de liberté créatrice qui a submergé l'Espagne après la dictature franquiste. D'abord incarné par la Movida et la Nueva Ola, vite récupéré par les majors, ce qui donne donc naissance, on l'aura compris, à cette Contraola. Alors, c'est toujours difficile de choisir un seul morceau dans cette émission. Alors, là, par nature, avec une compilation qui propose un aussi large éventail, c'est la règle du jeu pourtant, donc on a choisi, après concertation, un exemple, Moscou está helado, par le groupe Esplendor Geométrico.
Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, «Песня о Ленине», солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.
Está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada, la muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado.
Je me revois encore tourner le bouton du Korg pour obtenir ce genre de son. Il y a en effet plus de 35 ans. Mathilde Serrel, la Contraola, vous n'étiez pas née, mais ça vous parle quand même.
La Contraola, écoutez, j'arrive tout juste, on fait ce qu'on peut. 1980. Donc là, on est dans une période donc plus précise qui est
80-86.
80, voilà, 80-86. Et la Contraola, faut expliquer peut-être le concept, c'est qu'il y a d'abord une ola, justement. La movida.
C'est ce que je viens de dire en introduction, mais vous écoutez jamais mes lancements,
non, mais
en fait.
D'accord. Bien sûr, mais.
Okay. Mais c'est agréable, je le note. Mais ne pas faire de lancement avec Mathilde Serrel.
Très bien. On peut réexpliquer peut-être juste la teneur de la movida pour comprendre la différence. Non, mais c'est ça qui est. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a connu de cette Espagne-là? Almodovar, et donc le premier long métrage d'Almodovar, c'est Pipa Bom
et. Pepe Luce Bom
et Otras Chicas del Montón. Comme on dit en espagnol. Donc, on connaît cette scène-là. On connaît Alaska, éventuellement, Mécano.
Qui joue dans Pepe Luce.
Et Otras Chicas
del
Montón. Voilà. Sauf que là, évidemment, c'est la partie en réaction, la partie évidemment déformatée, anticommerciale. Et la Contraola, avec ce titre-là, moi j'ai découvert justement, peut-être dans les conditions idéales, un jour sur un radiocassette, un autoradio dans une voiture. Nous étions en Espagne et j'entends ce Esplendor Geometrico qu'on vient d'avoir inauguré.
Vous avez voyagé dans le temps également.
Tout à fait.
D'accord.
Il a également été repris, ce titre-là, sur une
R16, je crois.
Une compile de Toxic, bref. Non, mais c'est peut-être celui qui nous était parvenu, alors que là, on va redécouvrir la variété et finalement la pluralité de cette scène qui était peut-être mésestimée. La façon dont c'est présenté, on le dit qu'il y a un courant qui est davantage futuriste et puis un courant plus baroque, plus punk, plus provocateur.
Plus cold wave.
Voilà, moi je sais pas s'il faut vraiment les distinguer, mais il est clair que Esplendor Geometrico, ce qui est intéressant, c'est que c'était difficile de se procurer de la musique électronique à l'époque et pourtant, il y a une consonance d'imaginaire incroyable quand on pense au triangle de Jacquenot ou à des groupes en France comme Mathématiques Modernes. Moi, ça me fait penser à cette compile qu'on a sur la synthwave française qui s'appelle Bip et qui a à peu près les mêmes bornes chronologiques qu'un 79-85, donc à quelques années près. Donc là, c'est un peu ce versant espagnol de voir qu'il y avait une communauté d'esprit alors qu'il n'y avait pas forcément la possibilité d'avoir ces disques.
Une communauté de machines, hein, vous savez.
Une communauté de machines. Donc finalement, est-ce qu'on qu'on fait la même chose quand on se retrouve avec le Korg et autres, comme vous le dites.
C'est possible.
Et il y a aussi...
Il reste le talent.
Il reste le talent et il y a aussi cette façon d'inventer donc quelque chose de semi-clandestin avec peut-être des élans parfois tellement lo-fi, tellement punk. Moi, ça me fait penser à un Jean-Louis Cosse dans sa chambre. Il y a des choses qui sont vraiment étranges, quasiment peu écoutables sur cette compile. Mais son avantage, c'est de montrer la pluralité. Et moi, j'ai vraiment aimé, par exemple, deux groupes, La Fura de Baos, que je trouve... ils faisaient des performances punk, apparemment, pour essayer d'aller choquer le public. Linea Vienessa, avec un titre qu'on peut traduire en français par des crabes dans la cuisine, avec une petite naïveté noire et en même temps luxuriante. C'est à la fois des perles et en même temps, je sais pas, un disque que je conseillerais sur l'écoute globale comme le Vassilu que vous pourriez laisser traîner un dimanche matin. C'est presque un disque document pour aller voir ce que tel et tel titre vous dit de l'époque, vous dit des intentions de ces artistes, de ce qu'ils défendaient en termes d'avant-garde, donc contre cette ola formatée à la radio. Et en tant que document, ça fonctionne bien. Il y a aussi Diceno Le Corbusier qui est intéressant. C'est drôle d'aller voir que se sont replongés tous dans des avant-gardes pour essayer de nourrir les textes des chansons. Et ils inventent aussi des machines en créant cette contre-musique. Donc moi, c'est des groupes comme ça qui m'ont intéressée davantage que d'autres, plus lo-fi ou plus, on va dire, cold wave attendu, je trouve.
Olivier Lam, la contra-ola.
Je commence par me porter en faux avec cette remarque comme quoi le disque serait juste un document, parce que c'est une compilation vraiment de petites perles. Donc moi, je pense que le disque écoute très bien. En plus, on est à l'inverse de disques de punk ou de post-punk, le deuxième, troisième album, qui sont toujours un peu trop apprêtés, un peu trop prétentieux, un peu trop ambitieux. Là, on a vraiment l'énergie la plus pure et la plus, c'est-à-dire le premier mouvement, c'est-à-dire les premiers 45 tours, les premières sorties. Et Splendor et Ometrico, ils ont une très très longue carrière. Pour moi, quand je pense à ce groupe, je pense à des trucs techno-indus un peu dégueulasse. EBM, ouais. Un petit peu électro bonnie musique à la belge. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant, depuis qu'on a en gros le label Minimal Wave de Veronica Vassica, on sait que cette pop synthétique industrielle très minimale née en gros en Angleterre, ouais, avec Cabaret Voltaire et The Normal, deux morceaux de Daniel Miller, et tout peut essaimer. On sait que ça a essaimé quasiment dans tous les pays d'Europe, même au Japon, enfin dans énormément de pays, et que les scènes n'ont pas forcément toutes trouvé leur singularité. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Et là, ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'à la fois, on a vraiment le prototype un peu de quasiment chaque genre de groupe. C'est-à-dire que on pense énormément, Le Corbusier, je pense vraiment à Liaison Dangereuse, par exemple, ou Art of Noise. On pense à d'autres moments, aux Young Marble Giants. On pense évidemment à des groupes qui sont plus connus, à Via d'Ordre. En premier, on pense à Divo, évidemment. Mmh. Et en même temps, on a l'impression qu'ils sont déjà pas complètement dupes par rapport à la force, à la fois la force de l'élan et aussi par rapport à l'aspect effectivement futuriste. Alors le côté théâtral, le côté néo-dada, tout ça évidemment était déjà identifié, connu en 1980. C'est-à-dire qu'on était, on est déjà un peu trop tard. C'est ça qui est assez passionnant. Et en même temps, on a l'impression que ils prennent en compte à la fois ils le font comme il faut, ils suivent un peu c'est-à-dire ils parlent de société de consommation qui aliène, ils parlent de technologie qui devient un peu absurde, et en même temps ils sont là à un moment pour dire le mouvement de cette liberté n'est pas rose, cette liberté n'est pas donc il y a quelque chose d'assez viscéral dans ce refus d'une explosion de liberté, enfin en tout cas le refus de considérer que cette explosion de liberté, elle va forcément nous mener au bon endroit, non, peut-être qu'elle va nous mener au supermarché. Il y a ce truc que je trouve, qu'on trouve vraiment en germe dans quasiment tous les morceaux. Après, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas.
Mais qui correspond vraiment à cette époque aussi.
Bien sûr, évidemment.
Très particulière, et ça aussi, ça traverse les pays.
Ça traverse les pays, évidemment, mais évidemment, dans le cas de l'Espagne,
ah oui,
on est quelques années après la mort de Franco.
C'est 85.
C'est quand même, c'est assez
vertigineux. L'Espagne commence à peine à comprendre ce que ça peut être la démocratie. Ça vient petit à petit. Philippe Azoré.
Non, mais pour rebondir sur ce que dit Olivier, c'est-à-dire qu'effectivement, dans tout tout ce qui a été ce mouvement de synthwave originel fait sur cassette, il y a eu beaucoup de prétentions dans le monde entier. Il y en a assez peu dans cette veine espagnole. Ça tient pour beaucoup, je pense, à la fois à l'énergie, à la rage et à l'ironie espagnole, mais aussi à leur sens de la provocation. Et c'est ça qui est presque étonnant. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui est étonnant finalement? Quelle est la provocation dans un pays qui sort de 40 ans, voire plus de dictature? C'est finalement d'un coup de chanter le stalinisme, les Chinois, ouais. Et quasiment comme une valeur totale, c'est-à-dire vraiment d'aller au plus loin du nihilisme. Et c'est ce qui a été vécu, on a des témoignages, très très loin, physiquement, commercialement. C'est un mouvement à la fois magnifique, urgent, merveilleux, mais qui s'est engagé très très vite dans l'impasse, dans la nuit, l'impasse cybernétique de ce genre d'art. Il faut juste une précision. C'est très étonnant parce que c'est un héritage qui a été longtemps compliqué en Espagne. Moi, j'y vais souvent. C'est très très dur. Et bon, les cassettes, on les trouve jamais. Ça, c'est normal. Mais même les vinyles, enfin tout ce qui avait un peu circulé. Et étrangement, c'est revenu. Moi, je vois beaucoup parler une nouvelle génération, et notamment dans le cinéma. Et il y a un film que je voudrais recommander qui s'appelle El Futuro de Luis López Carrasco. C'est un film d'une quarantaine de minutes qu'on peut trouver sur YouTube et qui reprend qui recrée une soirée, une fête à l'époque de la transition, et on entend notamment La Via d'Oldro, c'est-à-dire Nuclear Sea, on entend tous ces morceaux-là, une partie de ces morceaux-là. C'est un film qui a 5 ans, et là Luis López Carrasco vient de réaliser à nouveau un moyen métrage qui était à Locarno cette année sur la chanteuse des Zombies qui est aussi dans un groupe dans ça. Donc bon. Et Luis López Carrasco est quelqu'un qui a 35-36 ans, je crois.
Bon, il faut qu'on mette un lien sur le site de la dispute pour aller voir ce film, c'est vraiment très bien.
Et ça vous plongera dans ce moment qu'on a appelé le cinéma kinky, cette scène synthwave, c'est-à-dire cette contre-culture espagnole qui a refusé la movida, qui a refusé les chemises à poids, les guitares, les boots, pour quelque chose de plus dur, avec quelque chose vraiment de tendu, de nerveux et en même temps d'éblouissant, quoi.
Allez, un petit mot de Boris Pinault pour un commentaire sur Twitter.
Oui, de Loïc Boyer sur Facebook, une compilation qui a le mérite de poursuivre le travail déjà accompli en France autour de la Cold Wave il y a quelques années par des labels comme Tiger Sushi ou Born Bad Records. Si on a vidé tous les tiroirs de l'Hexagone, il y a encore ceux des voisins. Youpi.
Voilà, qui est bien dit.
C'est une excellente remarque, parce que je pense que l'intérêt aussi, c'est, on dit souvent qu'on est des citoyens européens, etc., connaître simplement un petit peu mieux ce que c'est que la culture de la synthé pop et de la synthé wave en Espagne, ça me paraît important.
La contraola.
Claro que si. Claro que si.
80-86.
Como no.
Chez Bongo Joe.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet, il y a peu de temps, mais pour parler de MGMT, mais ce qui nous importait, c'était Vassiliou et la Contraola. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Le duo new-yorkais revient avec ce quatrième album, Little Dark Age. Non, je parle pour moi. Succès inaugural du premier opus, et puis deux albums qui ont suivi et qui ont laissé beaucoup de fans sur le bord de la route. Est-ce que ce nouveau disque, qui semble plus accessible, est-ce volontaire ou pas, est-ce qu'ils vont retrouver le chemin du succès? On va avoir quelques réponses très rapides après avoir écouté le morceau qui donne son titre à l'album, Little Dark Age.
Don't end up stranded forever.
Demande générale, nous chantons ce morceau non pas pour préjuger de sa qualité, mais parce que le temps a filé. On voulait rendre hommage à Didier Lockwood. Il est rare qu'on n'écoute pas les morceaux en entier, mais c'est pour la bonne cause. On va dire ça comme ça. Philippe Azori, MGMT, le retour.
Bon, j'essaie d'être rapide. C'est un groupe que j'ai toujours beaucoup aimé, effectivement, dès le premier album. Mais j'adore le deuxième, qui pour moi est leur meilleur. Enfin, voilà. Qui s'appelait Congratulations. Le troisième, était effectivement, se perdait un peu dans des rêveries Pink Floyd, mais à la fin, il y avait un morceau sublime. Et c'est presque, moi, le problème que j'ai avec ce disque-là, qui est très beau, qui est effectivement un retour à des mélodies, qui est sur le papier irréprochable. On peut déceler des influences, ça peut être les Cars, on dit les Buggles, je sais pas. Et à la fois, finalement, qui est celui qui m'intéresse le moins des quatre. Alors peut-être parce que j'apprends juste à l'aimer. Je pense que j'ai un problème avec ce disque, et que ça vient pas des morceaux, parce que séparément les morceaux sont très bien. Je pense qu'il est mal foutu, enfin au sens où je pense qu'il est mal monté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je m'ennuie vers la fin. Plein de gens me disent mais non, les derniers morceaux sont super. Je sais pas, il y a quelque chose. Et la question que je me posais, je vais essayer vraiment d'aller très très vite, c'est que effectivement ils se sont ressaisis, ils ont failli se perdre, ça a failli vraiment se noyer cette affaire-là de MGMT. Ils reviennent avec un art de la composition qui est parfait. Je veux dire, ils à faire des compositions, et je ne sais plus si ces compositions-là, 10 ans après le succès de leur premier succès, qui était Kids et tout ça, je ne sais plus si ça rencontre qui que ce soit, cette forme d'ensoleillement. Mais c'est peut-être moi qui me suis éloigné. Et donc c'est étrange, parce que c'est un disque très très réussi, d'un groupe que j'aime énormément, et au final, pour lequel j'ai pour l'instant une sorte de résistance. Mais ça tombera peut-être, tant mieux. Parce que quand j'entends séparément, c'est sublime. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est magnifique.
Mathilde Serrel.
Moi, je trouve que effectivement, il y a c'est le MGMT de 2018. Ils l'ont dit, ils parlent au présent, alors qu'ils ont toujours été un peu des oracles. C'était ce premier album oraculaire, spectaculaire. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui les MGMT dans notre présent à nous? Et c'est ça que j'ai aimé, moi. C'est cette espèce de d'ironie, de décalage qu'ils ont tout d'un coup dans le titre titre Me and Michael, qui est vraiment complètement années 80, synthé scintillon, pour faire des allitérations en S, avec l'influence de Ariel Pink qui a aidé à la composition du titre. Ils se prennent presque pour les Wham. Il y a énormément de décalage par rapport à leurs influences. On a parlé de tous ces groupes qui refont des choses à la sauce des années 80. Là, pour le coup, c'est digéré et avec un sourire. Je trouve aussi que dans le titre TSLAMP, c'est le time spent looking at my phone, le temps passé à regarder son téléphone. Ils sont dans l'esprit de ce que Louis C.K., cet humoriste un peu tombé depuis l'affaire, c'est vrai, depuis MeToo, puisqu'il était un peu exhibitionniste devant les jeunes femmes. En tout cas, Louis C.K., il avait raconté ce truc qui est que si on a un téléphone portable, on ne vit pas cette expérience existentielle essentielle qui est tu es seul et tu vas mourir. Et on passe son temps à essayer de se distraire de ce vertige existentiel. Et eux, ils en parlent très très bien dans ce titre. C'est très malin sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est un clip que je vous recommande, absolument génial. Un mélange de Cher. Donc pas du tout le futurisme charnel, le futurisme incongru, presque jusqu'au bout de l'oracle, quoi, dans les boyaux du poulet. Moi, c'est ça que j'aime dans ce MGMT 2018. Et je trouve qu'ils se sont retrouvés avec du second degré sur leurs influences et sur leur époque.
Allez, un choix d'un commentaire, Maurice Pinot.
Un mot de Bibou sur Twitter. Le dernier album de MGMT, c'est de la super cam. Dans la même veine que Congratulations, indispensable si vous aimez le groupe.
Bon, Olivier Lam.
J'aime. C'est un groupe avec lequel j'ai un rapport un peu ambivalent parce que je déteste leur premier album. Pour moi, c'est vraiment le pire de ce qui se faisait à l'époque. Et je suis absolument fan. Je pense que c'est le dernier grand disque de pop indie, on va dire, qui est sorti. Le deuxième, Congratulations. Le troisième, je l'ai oublié. Mais là, je trouve qu'ils ont réussi quelque chose de très fort. Ils arrivent à la fois à concentrer vraiment les pires travers de la pop actuelle, savoir trop produit, trop référencé, trop plein, trop perfectionné, et en même temps à présenter la seule solution, à savoir faire de très très bonnes chansons. Voilà, j'ai envie de dire de grandes chansons pour certaines d'entre elles. J'en ai une dont je When You Die, qui est une très grande chanson sur Internet et sur la haine sur Internet, qui est un truc assez vert. Enfin voilà, qu'on écoute les paroles et qu'on réalise ce qu'ils sont en train de chanter par rapport à ce qui se construit autour, c'est quelque chose de vraiment très fort. Parce que, et en même temps, j'ai l'impression que c'est une sorte de réflexion aussi sur ce qui leur est arrivé, sur le déboire de leur carrière, à savoir qu'effectivement ils ont monté très très vite et ils ont, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu pour le deuxième disque, sont retombés, j'ai envie de dire, aussi vite. Enfin, ils sont pas complètement retombés, mais et ça raconte que faire ce qu'on veut aujourd'hui, ça peut être vécu comme une violence par les fans qui ne se contentent pas d'acheter le disque. D'ailleurs, ils n'achètent plus les disques, les fans. mais ils peuvent vous rendre la vie impossible. Et donc, il y a une espèce de mise en abîme de ce qu'est Internet aujourd'hui qui est... Bon, je vais m'arrêter là, mais je pense qu'il y a un petit essai critique à écrire ou littéraire autour de ce disque.
Bah, vous allez le faire, Olivier.
Je l'ai déjà fait. Je vous invite à...
Pourquoi il faut le faire?
Ensuite, il rend hommage à John Ashbery, grand poète qui nous a quittés l'année dernière, qui n'intéressait pas grand monde.
On mettra le lien vers le texte d'Olivier Lam consacré à ce disque de MGMT, Little Dark Age, paru chez Columbia. On a fait vite, mais l'actualité oblige. Et on conclut à toute vitesse avec le jeu de la dispute et avec Camille André qui va nous rappeler la question d'hier et nous donner sa réponse.
Quel cinéaste fut inspiré par le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, réalisant ainsi l'un des tout premiers films de science-fiction? Et il s'agit de Georges Méliès.
Ce soir, on fait gagner les invitations pour les films de Jacques Prévert. Il y a 17 films qui ressortent demain dans les salles. Quelle est la question?
Un oiseau rare est un film écrit par Jacques Prévert en 1935, adapté du roman Trois hommes dans la neige. Qui est l'auteur de ce livre?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions, vous abonner au podcast, et vous avez même ce qui n'a pas été entendu au matin de Mathilde Serrel dans la dispute. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. On sera en compagnie de Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Frédéric Bonnet. À notre affiche Peinture des Lointains, c'est au musée du Quai Branly, les Hollandais à Paris au Petit Palais, et puis l'exposition de Julia Creuset à Béton Salon.